sur les créatures. Donc ce qu'on va essayer d'interroger aujourd'hui, c'est le rapport entre Dieu, le créateur, et ses créatures, entre l'être infini, l'océan infini d'être, et puis tous les êtres limités, les êtres particuliers que nous sommes et que nous voyons dans la création. Le problème, c'est que pour le faire, eh bien, il y a deux discours possibles, un discours qui est scientifique et un autre qui est religieux. Les deux discours sont rationnels, mais là, pour là, on ajoute la foi. Et le problème, c'est que ces deux discours ne semblent pas converger. Donc il y a un peu des divergences entre ces discours. Alors certains vous diront pas du tout, il n'y a aucune divergence. La preuve, le Big Bang, eh bien, voilà, c'est la preuve de ce qu'affirme la Bible. Et en même temps, ceux qui disent ça sont généralement les mêmes qui sont gênés par la théorie de l'évolution. Donc c'est intéressant, vous voyez, de voir qu'on prend une théorie scientifique quand ça nous plaît, et on la jette quand elle ne nous plaît pas. Et donc on va essayer de voir comment on peut réconcilier ces deux discours sur la création. Donc commençons par voir quel est le discours scientifique sur l'origine du monde. La cosmogénèse, comme je l'ai intitulé, selon les scientifiques. Alors je précise tout de suite que, à la différence du père de Binière, je ne suis pas un scientifique. Mes études scientifiques, elles remontent assez loin. C'était avant ma terminale. Quoi. En gros, c'était quand même une terminale C à l'époque, donc vous voyez à quel point c'est antédiluvien. Ça s'appelait C, mais il y a quand même 12 heures de maths ou 9 heures de physique, donc c'était assez costaud. Et justement, c'était un peu trop, donc ça m'a un peu... Bon, voilà, j'ai fait autre chose après. Mais je suis fondamentalement un littéraire. Simplement, Alors, s'il y a des scientifiques dans la salle, il y en a, ils vont trouver que c'est d'une platitude extrême ce que je vais leur dire. Je parle comme l'honnête homme du début du 21e siècle, parce qu'il y a certaines choses qu'il n'est pas permis, même à des littéraires, d'ignorer. C'est pas permis de les ignorer. Si vous voulez, il y a une culture générale de l'honnête homme du 21e siècle, et il n'est pas permis, ça fait partie de la culture générale, de connaître certaines théories scientifiques. Je suis assez d'accord, vous voyez, qu'il y a une phrase de Chateaubriand qui dit je ne m'éveille pas devant les machines à vapeur et les chemins de fer, tout cela n'est pas de la civilisation. Oui, c'est vrai, la technique, c'est pas de la civilisation, là je suis d'accord, mais la science spéculative, c'est de la civilisation, vous voyez, ça fait partie de la culture générale. Et il n'est pas permis, ça va être très l'image, mais voilà, de même qu'un scientifique n'est pas permis d'ignorer la Madeleine de Proust, eh bien, un littéraire, il n'est pas permis d'ignorer le chat de Schrödinger aujourd'hui, parce que ça pose des questions importantes. Donc il faut vraiment connaître. Donc voilà, il y a une culture générale, même scientifique, que tout littéraire doit connaître. Voilà, alors je parle en honnête homme du début du 21e siècle. Pour voir ce que la science nous dit aujourd'hui de l'origine du monde, eh bien, il faut remonter à la fin des années 20. À la fin des années 1920, c'est là que c'est peu à peu a été émise l'hypothèse et c'est mise à jour l'idée que l'univers tel que nous le connaissons n'est pas figé. Il n'est pas figé, mais il serait plutôt en expansion. Ça a été notamment mis en évidence par un astronome américain qui s'appelle Edwin Hubble, qui a observé qu'il y avait une fuite des galaxies les unes par rapport aux autres. Comment on observe ça? Eh bien, en gros, parce qu'on observe que la lumière qui nous parvient de ces galaxies depuis la Terre présente un décalage dans le spectre de la lumière, un décalage vers le rouge, donc ce qu'on appelle un effet Doppler. L'effet Doppler, pour les nuls comme moi, je vous rappelle ce que c'est la voiture qui arrive, ou le train qui arrive sur vous, eh bien, plus il se rapproche de vous, plus le son est aigu, et plus il s'éloigne, plus le son est grave. Donc, plus la longueur d'onde est élevée, plus la chose s'éloigne. Voilà. Et pour les galaxies, bien, c'est ce qu'on a observé. La lumière était décalée vers les grandes longueurs d'onde, donc vers le rouge, et donc il y avait, semble-t-il, un éloignement des galaxies les unes par rapport aux autres, et c'est ce qu'on a pu observer donc à la fin des années 20. Cette théorie, le premier, si vous voulez, qui a eu l'idée, qui s'est dit, ben, on va faire, rewind, si vous voulez, on passe le film à l'envers. L'un des premiers, c'est un prêtre qui s'appelle, on verra ce que son statut de prêtre implique ou n'implique pas justement, mais c'est l'abbé Georges Lemaître qui s'est dit, passons le film à l'envers, rembobinons le film, si l'univers est en expansion, eh bien il se pourrait très bien qu'à un certain moment il ait été contenu il y a des milliards d'années dans ce qu'il appelle lui un atome primordial. Bon, c'est l'expression qu'il donne, l'expression, il le reconnaît d'ailleurs lui-même, je crois, est assez mal choisie, parce que l'univers à ce moment-là, c'est tout sauf un atome, si vous voulez. c'est tout sauf un atome. Un atome, par l'étymologie le dit, c'est insécable. Alors l'univers, il est tout sauf insécable. Et puis voilà, c'est pas un atome tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais bon, c'est l'expression qu'il a retenue. Hein, voilà, imaginez une tête d'épingle ou ce que vous voulez, enfin un minuscule, voilà, un concentré, si vous voulez, de tout l'univers rassemblé, condensé en un minuscule atome primordial. Et il imagine que l'univers donc se dilate de façon régulière sous l'impulsion d'une gigantesque explosion. Que les ennemis d'abord de cette théorie, qui sont d'ailleurs des ennemis souvent pour des raisons en fait métaphysiques, on le verra, et pas toujours scientifiques, ont appelé le Big Bang, d'abord par dérision, mais qui finalement ce terme a été adopté par tous. Donc cette gigantesque explosion, et depuis l'univers semble se dilater. Ce qui est intéressant, c'est que cette théorie a été largement confirmée, je crois dans les années 50-60, par l'existence, on a observé l'existence d'un fond diffus, si vous voulez, dans tout l'univers, un rayonnement électromagnétique qui est comme un rayonnement fossile de cette gigantesque explosion qui baigne tout l'univers et qui est un rayonnement isotrope et uniforme, c'est-à-dire qu'il est reçu de la Terre depuis toutes les directions et de façon uniforme. Donc il a sans doute une origine commune, si vous voulez, une origine unique. Et donc ça a été une confirmation très forte de cette théorie de l'expansion de l'univers. Voilà. Aujourd'hui, donc on imagine que on a eu, si vous voulez, un mouvement cosmique qui est double. D'une part, un mouvement général de dilatation de l'univers avec des condensations localisées au sein même de ce mouvement de dilatation. Donc les condensations qui ont d'abord permis, bonjour Charles-Henri, qui ont d'abord permis la constitution des planètes, des atomes, etc. Bon, avec le temps, au fur et à mesure de l'écoulement du temps. Ça s'explique très bien parce qu'avec l'écoulement du temps, la température de l'univers a refroidi et donc ça a permis une condensation de la matière. Puisque pour que l'électron soit attiré par le proton, il faut qu'il perde de la vitesse. Et sa vitesse, quand il est élevé, il y a une agitation thermique des éléments, des électrons, pour qu'il soit attiré par le champ électrique du proton, eh bien, il faut qu'il perde de la vitesse et donc que la température diminue. Donc il a fallu que la température diminue. C'est exactement l'inverse que quand on arrache, on envoie une fusée depuis l'orbite terrestre, eh bien, il faut lui donner beaucoup de vitesse pour l'arracher à l'orbite terrestre. Là, il a perdu de la vitesse et donc ça a permis la compression et l'agglomération de la matière. Cette histoire, telle qu'elle est élaborée, dans le cadre de cette théorie, elle remonte à 15 milliards d'années à peu près. 15 milliards d'années à quelques milliards d'années près, on n'est plus à ça près. Et on l'établit par la vitesse relative, si vous voulez, de fuite des étoiles entre elles. Alors, ce qui est très important, c'est que la physique ne dit absolument pas qu'avant ces 15 milliards d'années, il n'y avait rien. Elle ne dit pas ça. Elle dit qu'elle n'a aucun moyen de le savoir. Actuellement, pourquoi? Parce que, il y a, si vous voulez, dans le cadre de cette théorie, il y a comme un horizon de l'univers, 15 milliards d'années-lumière, au-delà, on ne sait pas s'il y a. Alors, on ne dit pas qu'il n'y a rien, on dit qu'on n'a aucun signe, on ne peut recevoir aucun signe qui nous permettrait de savoir s'il y a. Voilà, donc il y a un horizon temporel, 15 milliards d'années, et spatial même, 15 milliards d'années-lumière, au-delà duquel on ne connaît rien. On ne peut pas connaître, on ne connaîtra jamais dans le cadre de cette théorie du Big Bang. On reconnaît que c'est impossible. Et donc on a ce scénario, si vous voulez, standard de création, d'évolution de l'univers. Il faut savoir aussi que dans ce scénario, il nous manque le premier maillon. C'est-à-dire qu'on arrive à remonter jusqu'à un temps très proche du Big Bang ou de l'explosion originelle, c'est le temps de Planck, 10 puissance moins 43 secondes, mais au-delà, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que, en gros, les équations, les solutions mathématiques présentent ce qu'on appelle une singularité, c'est-à-dire qu'il y a des données qui tendent vers l'infini, notamment la température. Et deuxièmement, pour remonter au-delà, il faudrait, en gros, qu'on arrive à établir ce qu'on appelle une théorie... une théorie quantique de la gravitation, c'est-à-dire en gros de réconcilier et d'unifier la relativité, la théorie de la relativité et la théorie quantique, ce qu'on ne sait pas faire actuellement. Donc le premier maillon nous échappe. On ne sait pas remonter au-delà de 10 puissance moins 43 secondes. Deuxième point, il reste des inconnus, notamment la question de savoir si cette expansion de l'univers est ralentie ou pas. Alors pendant très longtemps, jusqu'à une dizaine d'années, on a pensé que l'expansion de l'univers avait tendance à se ralentir plutôt, et que donc au-delà d'un certain seuil de densité, l'univers allait allait se, petit à petit, l'expansion allait se ralentir et l'univers allait se recondenser. Donc on a élaboré les théories, vous savez, du Big Crunch. On a imaginé une dilatation et puis ensuite une recondensation de l'univers. Le problème, c'est que pour établir, pour savoir si l'expansion va se ralentir ou pas, il faudrait qu'on soit en mesure de calculer la masse de l'univers et surtout sa densité, ce qu'on ne sait pas faire actuellement, puisque beaucoup de la masse de l'univers nous échappe. Et puis, depuis environ une dizaine d'années, il est apparu que loin d'être, semble-t-il, hein, d'après les derniers éléments que j'ai pu lire dans les revues de vulgarisation scientifique, loin d'être ralenti, l'expansion de l'univers avait tendance plutôt à s'accélérer. Donc elle s'accélérerait, on a établi avec l'observation donc des supernovae, vous savez, des explosions, des étoiles qui explosent très loin dans l'univers, enfin bon, je vous passe sur les détails, mais il semble que l'expansion de l'univers soit plutôt accélérée. Or, ça, dans le cadre de la théorie du Big Bang, théoriquement, ça ne s'explique pas. Alors, c'est une observation physique. Donc on a été obligé, en gros, d'introduire dans les équations une nouvelle donnée, une nouvelle inconnue, si vous voulez, qui est ce qu'on appelle l'énergie noire, qui est une énergie diffuse, répulsive. Évidemment, la physique ne se prononce pas sur la nature de cette énergie, mais pour sauver la théorie physique, pour sauver les lois de la physique, eh bien, on est obligé d'introduire cette mystérieuse force répulsive qui expliquerait à elle seule l'accélération d'expansion de l'univers. Voilà. Vous voyez, il y a encore beaucoup d'inconnus dans cette théorie physique. Il faut savoir que c'est une théorie qui est quand même très largement acceptée. Actuellement, ceux qui nient cette théorie sont tout à fait minoritaires. Hein, ils sont aussi minoritaires que ceux qui nient en bloc toute évolution, voilà, dans le monde scientifique. Des problèmes donc sont nombreux. Voilà, on n'a pas tout observé, on n'arrive pas à remonter jusqu'au premier instant du scénario. Et je vous rappelle, alors il faudrait évidemment, mais là on ne peut pas le faire dans le cadre d'un café caté, il faudrait faire un cours d'épistémologie. Je vous rappelle qu'on ne croit pas à une théorie physique. C'est pas de foi, une théorie physique c'est une construction hypothétique et conjecturale. Toutes les théories, elles sont appelées à être dépassées, elles évoluent. Ben voilà, il y avait Ptolémée, la physique de Ptolémée, ça a été dépassé complètement par Galilée, Newton, et puis Newton elle-même a été dépassé par la relativité d'Einstein, etc. Donc voilà, les théories se succèdent et englobent ce qu'il y a de bon dans les précédentes et assument ce qu'il y a de bon, mais elles se succèdent et elles évoluent. Voilà. Je vous rappelle également que la physique moderne ne dit pas tout de la réalité. Physique moderne, quel est son objet? Eh bien, son objet, c'est la structure quantitative de l'univers. La structure quantitative de l'univers, ben voilà, c'est pas tout de la réalité. Il y a d'autres choses. Ça ne dit rien de la nature. Ça dit quelque chose de la nature des choses, mais pas tout. Voilà, c'est comme vous prenez une paire de chaussures, une taille 42. Eh bien voilà, taille 42, ça vous dit bien quelque chose de la chaussure, mais ça ne vous dit pas tout de la chaussure. La preuve que c'est pas complètement nul de savoir que c'est une taille 42, c'est que si on se plante sur la pointure, ben on est bien embêté. Mais voilà, le taille 42, le terme taille 42 ne dit pas ce que c'est qu'une chaussure. Vous reconnaissez. Donc voilà, la physique, de la même façon, étudie la structure quantitative de l'univers, qui est ce qu'en philosophie on appelle une partie, ou si vous voulez, un élément de la cause formelle. Voilà pour en gros un aperçu ultra rapide et très réducteur, je m'en doute, de ce que dit la science. Maintenant, essayons de voir ce que dit de l'origine du monde la Bible et le discours religieux. Alors là aussi, il me faut poser quelques préliminaires, vous voyez, d'exégèse un petit peu. Eh bien, d'abord, il faut savoir que la Bible est un discours qui est formellement religieux. Qu'elle entend nous enseigner, elle entend nous dire que la révélation divine nous apprend les origines du monde. La Bible, je vous rappelle également, c'est un livre qui est inspiré. C'est inspiré, ça c'est très extrêmement important. Elle a deux auteurs, l'écrivain sacré, celui qui a écrit le livre, et puis Dieu. Et l'écrivain sacré, c'est un instrument. Donc, entre, si vous voulez, Dieu s'est servi de l'écrivain sacré comme d'un instrument, mais l'écrivain sacré a prêté à Dieu, si vous voulez, si vous me permettez cette expression, d'une certaine façon, son intelligence, sa culture, voilà, il se trouve que c'était un juif qui écrivait à telle époque en 1000 avant Jésus-Christ, etc., baigné dans un milieu sémite, moyen-oriental, etc. Tout ça, il l'a prêté à Dieu, et il est également l'auteur du livre. Hein. Il y a deux auteurs, Dieu et l'écrivain sacré. c'est un livre inspiré et qui donc ne contient pas d'erreur, puisqu'il a Dieu pour auteur. Il ne contient pas d'erreur, et encore faut-il savoir ce que c'est qu'une erreur. Qu'est-ce qu'une erreur ? Eh bien, c'est quand on tient un discours qui ne correspond pas à la réalité qu'on prétend affirmer. On tient un discours qui ne correspond pas à la réalité que l'on prétend affirmer. Mais encore faut-il savoir quelle réalité on prétend affirmer. L'astronome, quand il parle comme un astronome, eh ben, il dira jamais que le Soleil tourne autour de la Terre. Néanmoins, comme Monsieur Tout-le-Monde, quand il va parler avec son boulanger le matin, acheter sa baguette de pain, eh ben, il dira « Oh, quel beau lever de soleil ce matin !» Et il parlera du lever du soleil, du coucher du soleil. Est-ce que ça veut dire que ce qu'il dit est faux ? Est-ce qu'il le ment en disant ça ? Non, simplement, il ne parle pas comme astronome. Il entend simplement, si vous voulez, son discours, formellement, il porte sur les apparences du mouvement du soleil. Et donc, ce n'est pas faux. C'est simplement, c'est un autre ordre de discours. Voilà. Je vous rappelle que la Bible, donc je vous l'ai dit, c'est un livre religieux, c'est pas un livre scientifique. C'est la différence entre la Bible et l'Alcoran, parce que le Coran, voilà, c'est un livre scientifique. Tout est dans le Coran. Le Coran, c'est la différence, il n'y a pas d'inspiration dans l'islam, vous savez, le Coran, qu'est-ce que c'est le Coran ? Eh bien, c'est la copie parfaite, du Coran, de l'exemplaire incréé du livre qui est dans le ciel et qui a été écrit par Dieu. Et qui a été remise, cette copie a été remise à Mahomet. Donc c'est Dieu vraiment qui a tout écrit tout seul le Coran. Et en gros, il a fait une photocopie du bouquin. Et il l'a remis à Mahomet. Voilà. Et donc tout est dans le Coran. Tout. Vous demandez à un musulman, il vous expliquera que la théorie quantique, c'est dans le Coran. Un frère m'avait ramené un jour un truc, il avait récupéré une petite brochure d'apologétique musulmane. C'était très intéressant, c'était assez bien fait, goût musulman moyen-oriental, si vous voulez, avec des couleurs un peu flashy et tout ça, mais tout en couleurs et tout, 50 pages à peu près, sur papier glacé, sans doute financé par l'Arabie Saoudite, en gros, on vous expliquait effectivement cette théorie, que tout est dans le Coran, toutes les sciences sont dans le Coran, et on vous expliquait par exemple que l'embryogenèse, qu'on avait découvert bien plus tard, c'était déjà dans le Coran. Et comment on faisait pour vous expliquer ça ? Eh bien, on prenait deux photos. Donc, on prenait une photo d'un embryon c'est 2 semaines ou quelque chose comme ça. Vous voulez, la photo qu'on a grossie, voilà. Et puis, on prenait un chewing-gum mâché. Un chewing-gum mâché à côté. Parce qu'il y a une sourate du Coran qui dit, l'embryon ou la semence, l'enfant avant d'être conçu, c'est quelque chose de mâché. Et on vous disait, et le chewing-gum mâché épousait la forme de l'embryon, si vous voulez, c'était à peu près la même forme. Et on vous disait, voilà, la preuve, tout est dans le Coran, vous voyez, l'embryogenèse était déjà dans le Coran. Alors évidemment, ça nous fait sourire, et ça paraît ridicule, comme apologétique. Ben oui, mais il faut faire attention de ne pas tomber dans le même travers vis-à-vis de la Bible, vous voyez. Parce qu'on va en parler, il y a le problème du concordisme et tout ça, on va le voir. Et on peut facilement, ou dans certains milieux fondamentalistes, faire la même chose avec la Bible. Et bien ça, c'est pas catholique du tout. Voilà. Donc la Bible, c'est un livre religieux. Je vous rappelle aussi que sur l'origine du monde, la commission biblique s'est prononcée au début du siècle et a établi que les 6 premiers livres de la Genèse étaient des livres historiques. C'est-à-dire qu'ils contenaient des faits réels. Alors reste à savoir également de quelle façon ils les contiennent. Qu'est-ce que l'auteur prétend vraiment affirmer ? Mais on ne peut pas dire que tout est un mythe dans la Genèse. Ça, vous ne pouvez pas le dire et être catholique. Voilà. Alors, que nous dit la Genèse de l'origine du monde ? Eh bien, elle nous dit d'abord que le cosmos a une histoire. Ça, c'est important. Vous voyez, il n'est pas apparu tout seul d'un seul coup, comme ça. Non, il y a un processus qui est ordonné. Et puis, il y a un scénario. Et ce qui est intéressant dans la Genèse, c'est qu'il y a 2 récits, déjà. Donc ça, il faut le dire aux fondamentalistes, vous voyez, type évangélique américain qu'on peut rencontrer, j'en connais, il faut leur dire, vous êtes créationniste à fond les manettes et tout, mais il y a 2 récits de création dans la Bible et qui divergent. Ils divergent. Les 2 premiers chapitres de la Genèse divergent dans les 2 récits, ne sont pas les mêmes. Donc il y a le premier récit, j'ai noté la séquence, si vous voulez, premier jour, séparation de la lumière et des ténèbres. Deuxième jour, séparation des eaux d'en haut et de celles d'en bas par le firmament. Troisième jour, séparation de la mer et de la terre qui portent des plantes. Quatrième jour, création des luminaires dans le firmament. Là aussi, c'est intéressant, vous voyez. Ça, c'est intéressant. Création des luminaires, le quatrième jour. Ça faisait beaucoup rire Voltaire, par exemple. Voltaire, parce qu'il citait les sarcasmes de Voltaire, parce que les luminaires apparaissent le quatrième jour, après la lumière, le premier jour. Alors Voltaire rigolait, il disait qu'est-ce que c'est cet ouvrage, c'est ridicule. Le problème, c'est que dans la théorie du Big Bang, c'est comme ça que ça s'est passé. La lumière a existé avant les étoiles. Voilà, alors quoi? Est-ce que la Bible est un livre scientifique? Vous voyez, tout est dans la Bible aussi, on peut dire. Tout est dans la Bible. Vous voyez, la lumière a existé avant les étoiles, c'est dans la Bible. Voilà. Bon, et puis je passe sur le donc, cinquième jour, création du règne animal. Sixième jour, création de l'homme, à son image, homme et femme. Voilà. Et puis il y a le deuxième récit, où là, Dieu commence par le ciel et la terre. Ensuite, il crée l'homme. Puis, la végétation apparaît. Ensuite, il crée la femme. Et finalement, le monde animal fait son entrée avec Adam qui nomme tous les animaux, etc. Voilà. Et bien, la première chose qu'on voit, c'est qu'il y a deux scénarios complètement différents. Ben, c'est peut-être que la Bible n'entend pas répondre au scénario, vous voyez, n'entend pas répondre à la question de savoir quel est le scénario de la création de l'univers. Si elle nous en donne deux différents, c'est peut-être que ce n'est pas le point important de la chose. Voilà. Et si on fait donc un survol du thème de la création dans toute la Bible, quelles sont les grandes vérités que l'on a dans la Bible sur la création, sur le commencement du monde? Eh bien, Dieu et lui seul a tout créé. C'est moi, Yahvé, qui ai fait toutes choses, qui seul ai créé l'univers. Hein, ça, c'est dans Isaïe. Dieu a tout créé à partir de rien, ex nihilo. Tout fut par lui, sans lui rien ne fut, etc. Le prologue de Saint Jean, hein, très important. Le monde a eu un commencement. Eh bien, c'est même dans le beau discours après la scène de l'autre Seigneur qu'on va lire là pendant la semaine sainte. Et maintenant, Père, glorifiez-moi de la gloire que j'avais auprès de vous avant que le monde fût. Voilà. Le monde a eu un commencement. Il y a eu un moment où il n'y avait pas de monde. Voilà. Tout ce que Dieu a fait est bon. Ça aussi, c'est important. Et Dieu l'a ritournel. Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu vit que cela était bon, etc. L'homme est vraiment le sommet de ce processus de la création. Il est à l'image de Dieu, lui seul. Et Dieu a créé l'homme et le monde par amour. Il l'a créé par amour, il les a créés par amour. Tu aimes tout ce qui existe, etc. Et tu n'as de dégoût pour rien de ce que tu as fait. Voilà ce que dit la Bible. Et vous voyez, c'est pas pour rien. La création, c'est c'est le premier amour de Dieu à l'extra, quoi. Le premier amour, la première manifestation extérieure de l'amour de Dieu, c'est la création. C'est pas pour rien que pendant la veillée pascale, dans 5 jours, quand on va commencer par les lectures, la première, quelle lecture on va faire? La Genèse. Et la lecture longue où tout le monde s'endort, épuisant pour celui qui la chante en plus, en grégorien et tout. Mais voilà, c'est magnifique. C'est magnifique parce que c'est vraiment, tout part de là, tout part de la création. Et alors, il faut souligner quand même un point important, c'est l'originalité profonde des récits bibliques, vous voyez. Parce que vous avez des tentatives relativistes qui vous disent, bon, finalement, la Bible, c'est un mythe, il y a d'autres mythes de création à la même époque, dans le contexte moyen-oriental. Il y a des récits égyptiens, babyloniens, etc. Et tous disent un peu la même chose. Eh bien, c'est pas du tout vrai. La Bible a une profonde originalité. Pourquoi? Eh bien, parce que, déjà, dans la Bible, il y a un Dieu qui est unique. Et ça change tout. Et il accomplit son dessein selon un plan bien établi. Et il est complètement extérieur à sa création. Vous voyez? Complètement extérieur à sa création. Généralement, dans les récits égyptiens ou babyloniens ou contemporains de la Bible, eh bien, en gros, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle des théomachies, c'est-à-dire des combats de dieux. Un dieu mauvais et un dieu bon qui s'affrontent. Et puis voilà, il s'envoie une planète à la figure et des étoiles à la figure et ça fait le monde, voilà. Mais ces récits d'ailleurs n'entendent même pas, si vous voulez, d'un certain point de vue, ils n'entendent même pas expliquer la création du monde. Ce qu'ils veulent expliquer, c'est l'origine du mal. Donc, et la Bible, c'est très différent. Dieu est complètement extérieur à sa création et il a tout créé selon un plan bien établi. Voilà, et il crée complètement librement. Il n'y a pas de mauvais principe dans le contre lequel, il n'y a pas une émanation progressive et obligatoire de sa substance. Non, il crée directement, librement. Et il crée, ce qu'il crée est bon. Tout ce qu'il crée est bon. Voilà. Et il y a une transparence de la création à son auteur. Et ça, c'est extrêmement important. Vous voyez, il y a un sens. Dieu nomme les choses qu'il crée dans la Bible. Il donne un nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un sens de la création. Et que justement, si on peut remonter à l'existence de Dieu, si on peut connaître quelque chose de Dieu, eh bien, c'est que la création a un sens. C'est que la création a un sens, voilà. Et ça, c'est très important. Vous voyez, il y a le thème très à la mode, c'est dire Dieu, c'est le tout autre. Voilà. Dieu, le tout autre. Si c'est le tout autre, très bien, on arrête tout, on ferme le café-caté, on parle d'autre chose, on parle du match de foot ou je sais pas quoi, mais il n'y a rien à en dire. Si c'est le tout autre, on ne peut pas le connaître. Si c'est le tout autre, on ne peut même pas savoir qu'il est tout autre. Donc, vous voyez, il y a complètement un anti-intellectualisme dans ce discours. Que Dieu soit le très autre, je suis totalement d'accord. C'est le très autre. Il est très très autre. Mais il n'est pas tout autre. Il n'est pas tout autre, parce que s'il est tout autre, on ne peut rien en dire. Voilà. Alors, il faut bien voir que dans ce récit de la Bible, là, je vous ai donné un peu les points communs, il y a quand même des points qui font difficulté. Il y a des points qui font difficulté. Les 6 jours, qu'est-ce que c'est que ces 6 jours? Est-ce que c'est 6 jours de 24 heures? Un créationniste, il vous dira, bah oui, c'est 6 jours de 24 heures, comme ça, interprétation purement littérale de la Genèse. Bah, ce qui est intéressant, c'est que saint Augustin, il dit pas du tout ça. Saint Augustin, le plus grand père de l'Église d'Occident, il vous dit quoi? Vous pensez que les 6 jours, c'est des jours de 24 heures? Vous pensez que les 6 jours, c'est, à la limite, bon voilà, concordisme, les 6 jours, c'est 6 grandes périodes de temps. Voilà, l'ère primaire, l'ère de son, juste qu'il n'y a que 4 heures, ça marche pas, mais bon, on arrive en gros, on se débrouille, ça fait des longues. Enfin, saint Augustin, il vous dit non, pas du tout. Les 6 jours, c'est pas temporel, ça n'a rien à voir. Dieu, il a tout créé d'un coup, pour saint Augustin. Tout créé d'un coup. Les 6 jours, c'est des 6 classes d'être, en gros, pour lui. Et voilà. Dieu a tout créé d'un coup. Il est complètement, avec saint Augustin, je peux vous dire, complètement évolutionniste. Alors lui, c'est Dieu crée la matière inorganique. Voilà, il crée la matière inorganique, et puis après, hop, il laisse tout et tout se développe. Voilà. Et la vie apparaît, parce que c'est des raisons séminales et tout ça, sous la conduite de Dieu, bien sûr, mais Dieu, il a pratiquement créé que ça. Et c'est saint Augustin, quand même, plus grand père de l'Église d'Occident, hein, qui nous dit. Vous voyez. Autre problème, les 6 jours, bon, et autre problème, le in principio, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, au commencement. Alors comment, alors voilà, j'ai traduit au commencement, mais saint Augustin, il serait là, il me dirait, mais pas du tout, c'est pas du tout au commencement, pas du tout au commencement, in principio, c'est dans le principe, dans le verbe, dans le logos, ça veut dire en gros que la création a un temps, Dieu a créé tout par son verbe, voilà. Et la création a une intelligibilité. Voilà ce que dirait saint Augustin. Il dirait, mais il n'y a pas du tout de commencement. Non, ça ne veut pas dire le commencement. Enfin, il le tiendrait parce qu'il est à la foi catholique. Il dirait que le monde a commencé, mais il dirait, bah, c'est pas ce que dit la Bible. Enfin, c'est pas ce que dit la Genèse, là, dans ces passages-là. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même intéressant. C'est intéressant. Voilà. En tout cas, ce qu'il ne faut pas masquer, c'est qu'il y a une différence profonde, évidemment, oui, sur le fond et sur la forme, entre les récits bibliques, les récits religieux, que nous dit la religion et ce que nous dit le discours scientifique, même actuel. Ça, il faut, bon, voilà, ça saute aux yeux, c'est évident. Alors, comment réconcilier les deux discours? Eh bien, on ne peut le faire que si on étudie, puisque l'un et l'autre entendent nous parler de la création, c'est la notion même de création qu'il faut creuser. Et donc, il faut avoir une étude, il va falloir passer par une étude philosophique de la création. Qu'est-ce que la création? C'est ça le point important. Qu'est-ce que la création sur un plan philosophique? Quand on essaye de réfléchir vraiment, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que Dieu crée? Ex nihilo. Alors là, il faut quand même. Alors accrochez-vous, ça va être plus difficile. Reprenez une bière au besoin. Il faut d'abord que je détruise quelques idées reçues, vous voyez. Parce qu'on a plein d'idées reçues sur la création qui viennent du fait qu'on a une imagination qui travaille. Si vous demandez à un enfant du catéchisme qu'est-ce que la création, je parle à un bon enfant du catéchisme, pas comme tous ceux que j'ai eus, disons les meilleurs enfants de mon catéchisme, donc j'ai les 12-15 ans cette année, donc vous voyez, bon, c'est un peu. Mais bon, un bon enfant du. Voilà, un bon enfant du catéchisme, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire, bon ben voilà, en gros, la création, eh bien, tout d'abord, il n'y avait rien. Si ce n'est Dieu, et puis un jour, Dieu décide à créer. Et le monde vient à l'existence. Par sa puissance, il le crée, et c'est le premier jour. Voilà. Tout d'abord, il n'y avait rien, si ce n'est Dieu, mais un jour, Dieu décide d'appeler le monde à l'existence, par sa puissance, il le crée, et c'est le premier jour. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser d'une telle réponse? Bon, je mets plutôt une bonne note au catéchisme à cette réponse. Là, je serais bien content qu'un enfant, voilà, je suis bien content quand il me répond ça. C'est déjà pas mal. Ouais, ouais, s'il n'y a pas de faute d'orthographe en plus sur la copie, c'est miraculeux, quoi. Donc, c'est déjà pas mal. Et d'une certaine façon, ben, on répondra tous la même chose. Si je vous avais interrogé, vous m'auriez un peu dit la même chose. Sauf si vous êtes très fort en catéchisme, vous êtes passé par les bonnes écoles et tout, et vous avez. Mais le problème, et d'une certaine façon, on parlera tous de la même façon quand on parlera de la création. Le problème, c'est que c'est archi faux. C'est archi faux, son discours. En tout cas, c'est complètement inadéquat. Complètement inadéquat. Et ça, je vais vous le montrer, mais je vais avoir aucun mérite à le faire. Je vais complètement me démolir. Si je voulais humilier, c'est pas prendre catéchisme, mais ce serait radical. Ce serait vraiment très très facile. Alors allons-y. Tout d'abord, ça désigne un temps. Alors moi, je veux bien, mais il y avait un temps avant le temps. C'est quoi ce temps? Parce que le temps, il a commencé avec le monde. Donc c'est quoi ce temps? Ça n'a aucun sens, tout d'abord. Vous voyez, ça désigne rien. S'il n'y a rien, ben, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas deux temps. Il n'y a pas deux temps. Un temps avant le monde et puis un temps avant. Il n'y a rien avant. Donc il n'y a ni temps, ni autre chose. C'est le néant. C'est ça, le principe, normalement. La création, c'est ça. Si le monde a commencé, je dis bien si le monde a commencé, en arrière, s'il y a une limite arrière, eh bien, il n'y a rien avant. Ni le temps, ni autre chose. Et donc, il n'y a pas d'avant. Et donc, il n'y a pas de tout d'abord. Voilà. Il n'y a pas de tout d'abord. Vous voyez déjà le danger de l'imagination. Parce que nous, quand on imagine la création, le problème, je vous le dis déjà, je vous le dis tout de suite, c'est que nous, tous les commencements qu'on voit dans le monde, eh bien, c'est des commencements relatifs. C'est des commencements relatifs. Il y a toujours eu quelque chose avant. Mais la création, il n'y a rien d'avant. C'est un commencement absolu. Et donc, nous, on a beaucoup de mal à imaginer. On ne peut même pas imaginer, on va le voir, on ne peut pas imaginer la création. On ne doit pas l'imaginer si on veut penser réellement la création. Tout d'abord, il n'y avait rien. Alors là aussi, qu'est-ce que c'est que ce rien? Qu'est-ce que c'est que ce rien qu'on met dans une durée, dans un temps qui n'existe pas? Le rien n'est rien. Vous voyez, il n'y a pas de position. Voilà, il n'est pas avant quelque chose, le rien, c'est rien. C'est rien. Et donc, il y a une contradiction formelle, vous voyez, une contradiction intrinsèque à supposer un moment où il n'y avait rien. Il n'y a rien, il n'y a pas de moment, il n'y a rien, il n'y a pas de temps, il n'y a rien. On ne peut rien en dire. Tout d'abord, il n'y avait rien si ce n'est Dieu. Alors là, c'est le sommet de la réponse. Il n'y avait rien si ce n'est Dieu. C'est Dieu. Ben là, notre enfant du catéchisme, là, vous voyez, il vient de faire une magnifique profession de foi d'athéisme. Parce que il se proclame, alors c'est magnifique, c'est du pur athéisme, vous voyez. Il loge Dieu dans ce temps qui n'existe pas et dans ce rien. Il met Dieu dans le rien. C'est-à-dire, en fond, il met Dieu dans une durée successive, dans un temps. Dieu qui est immuable. Dieu qui est immuable. Dieu, il ne bouge pas. Il est complètement... ça détruit Dieu. Voilà. Parce que si on le met dans une durée successive, c'est du change, c'est du mouvement en Dieu. Vous voyez, on ne peut pas le soumettre en changement. Dieu, c'est l'acte pur. Normalement, vous avez vu les sciences précédentes, enfin, j'espère. Dieu, c'est l'acte pur, il est immuable, il est parfait. On change, quand on change, c'est pour acquérir quelque chose qu'on n'a pas. Dieu, il a tout, il n'a pas besoin d'acquérir quoi que ce soit. Il ne bouge pas, il n'y a aucun changement en Dieu, il est complètement immuable. Donc vous voyez, mettre Dieu dans la durée successive, eh bien, c'est détruire Dieu, ni plus ni moins. Alors attention, vous voyez, attention à ne pas confondre l'éternité de Dieu avec un temps très 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 long, une perpétuité. L'éternité de Dieu, je vous rappelle, ça on apprend normalement aussi au catéchisme quand même, c'est un unique instant. L'éternité de Dieu, c'est un éternel présent, c'est un unique instant, le non-stant, hein, éternitatis. C'est, à la limite, si vous voulez imaginer l'éternité, ben vous imaginez un point. Imaginez surtout pas une droite continue et infinie. Surtout pas. C'est un point qui rayonne sur tous les moments, sur tous les instants de cette droite, sur tous les points de cette droite, mais qui est au-dessus, vous voyez, et qui rayonne d'une certaine façon sur tous les points de cette droite. Comme l'être de Dieu rayonne et englobe tous les êtres des créatures. Mais vous voyez, ne confondez pas l'éternité de Dieu, attention, ne confondez pas l'éternité de Dieu avec la perpétuité. C'est deux choses bien différentes. Dieu, l'éternité, ce n'est pas successif, c'est un unique instant présent. Voilà. Et donc l'éternité de Dieu, eh bien, elle ne précède pas le monde, parce que Dieu n'est pas dans le temps. Il ne précède rien. Ou elle le précède par son unique instant avant, vous voyez, elle est au-dessus du monde, en fait. Elle est au-dessus du monde. Elle le transcende. Alors poursuivons notre examen de catéchisme. Tout d'abord, il n'y avait rien si ce n'est Dieu, mais un jour, Dieu se décide à donner existence au monde. Alors, je ne vous refais pas avec le « un jour » ce que j'ai fait avec le « tout d'abord » et le « rien ». C'était la même chose. Il n'y a qu'un jour, hein, le premier jour. Le premier jour, c'est le premier jour du monde. Il n'y en a pas avant. Il n'y a pas de jour. Le premier jour, il n'y a qu'un jour, c'est quand le monde est là. Et voilà, ça, c'est le premier jour. Et ce jour, le temps commence avec le monde. Voilà. Et je vais peut-être vous surprendre. Mais logiquement, ce que je vais dire est parfaitement rigoureux. Eh bien, même si vous supposez un début de la durée du monde, comme c'est deux fois, parce que je suis quand même catholique, hein, je vous dis, après, d'un point de vue philosophique, ça ne me pose aucun problème, la perpétuité du monde. Mais la foi catholique, quand même, me demande de croire qu'il y a eu un commencement. Donc, je le tiens. Mais à supposer même que le monde ait commencé, eh ben, je vais vous dire, il a toujours existé. Le monde a commencé, mais il a toujours existé. Pourquoi il a toujours existé? Ben, trouvez-moi un seul moment du temps où il n'y a pas eu le monde. Ben non, parce que le temps est avec le monde. Vous voyez? Quand on parle des êtres particuliers, vous et moi, etc., il y aurait une contradiction complète à dire, eh bien, il a commencé et il a toujours existé, parce qu'il y a toujours du temps avant. Mais dans la création, quand il s'agit de tout l'ensemble du monde, ben là, il n'y a aucune création, aucune contradiction, puisque, précisément, eh bien, le temps naît avec l'ensemble du monde. Et donc, il n'y a aucun moment, trouvez-moi un seul moment du temps où le monde n'a pas existé. Ben, il n'y en a pas. Voilà. Donc le monde, même si le monde a commencé, il a toujours existé. Voilà. Alors attention, vous voyez, déjà on voit là, attention aux illusions de notre imagination. Vous voyez, on ne peut faire, la grande clé, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas faire au néant, si la création est ex nihilo à partir du néant, et bien on ne peut pas faire au néant succéder le monde. On ne peut pas faire au néant succéder quoi que ce soit. Parce que le néant c'est rien, et de rien, rien ne vient, rien ne succède. Voilà. Une succession dont un des deux termes, c'est le vide, c'est le néant, ben, c'est pas une succession, c'est une absurdité. Le néant, il ne précède rien, et du néant, rien ne suit, rien ne peut suivre. Voilà. Et ensuite, notre enfant du catéchisme nous dit, Dieu passe à l'exécution, il agit, et puis le monde est. Voilà, il crée le monde. Il agit, il se décide, et puis, alors ça c'est très bien. Là je suis d'accord, la création c'est un acte de Dieu. Ça c'est vrai, il y a une action créatrice de Dieu, la création, c'est un acte. Mais attention, cet acte, eh bien, c'est Dieu lui-même, c'est l'essence de Dieu lui-même. Vous voyez? Il n'y a pas... Parce que Dieu est parfaitement immuable. Il ne faut pas se représenter la création, Dieu qui se dit, je m'ennuie, parce que voilà, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin, comme dit Woody Allen. Donc, si je me décidais à créer. Et puis, je me décidais à créer. Bon, quand je vais le faire, c'est l'heure. Allons-y, fiat lux. Bah, c'est pas du tout ça. Hein. Là, vous êtes complètement à côté de la plaque. Dieu est immuable, il est éternel, il est dans son unique instant présent. Quand il passe à l'acte, Dieu est et ses effets sont. C'est tout ce qu'on peut dire. Il n'y a pas de succession en Dieu. Il n'y a pas un moment où Dieu décide d'agir. Ça, c'est de notre côté à nous qu'il y a une succession du temps. Mais Dieu, il n'est pas dans le temps. Hein. Dieu est et ses effets sont. Voilà. Et on ne peut pas dire qu'il y a un moment où Dieu n'aurait pas agi et qu'à un moment, il s'est décidé à agir. Donc, faisons attention à ça. Conclusion, l'accumulation des non-sens auxquels on parvient dès qu'on essaye un peu de réfléchir sérieusement sur la création. Pourquoi? Parce qu'on imagine toujours la création comme une succession. Voilà. Création ex nihilo, à partir de rien, à partir. Voilà. On imagine qu'il y a une succession. Et ça, vraiment, il ne faut pas le faire. Sinon, on ne comprend pas la création. Alors vous me direz, effectivement, c'est vertigineux et tout ça, mais peut-être que c'est parce qu'on pose un premier jour du monde. Essayons de poser un monde perpétuel, un monde qui a toujours existé. Allons-y, peut-être que ça marche, que c'est plus facile. Alors allons-y, posons la perpétuité du monde. On peut essayer de poser un monde perpétuel. Je vous rappelle, je dis bien perpétuel, dans les controverses, souvent on parle d'éternité, la controverse de l'éternité du monde. C'est ambigu, je vous ai dit, l'éternité est réservée, ce terme, à Dieu. L'éternité, c'est un unique instant. À la limite, la perpétuité, c'est tout le contraire de l'éternité. C'est tout le contraire de l'éternité, parce que si l'éternité c'est un point, et bien la perpétuité c'est une droite qui s'allonge. Et plus vous allongez la droite, et bien plus elle est éloignée du point. Vous voyez? Donc la perpétuité du monde, à la limite, c'est le contraire de l'éternité. Vous voyez, les anges, ils ne sont pas dans un temps continu, successif, comme nous. Nous, on est dans un temps continu, successif, dans une droite. Les anges, c'est pas du tout ça. Les anges, c'est des suites de points. Tac, 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 qui succèdent. Il y a une succession, mais sans continuité. C'est un temps discontinu. Très intéressant. Il sert à voir ça peut-être une prochaine fois, mais oui, c'est passionnant, parce que vous voyez, plus c'est discontinu, d'une certaine façon, plus on se rapproche de Dieu. Voilà, c'est beau. Voilà. Mais à mesure que la droite elle s'allonge, on s'éloigne beaucoup, beaucoup du point et beaucoup de l'éternité. Alors essayons de poser un monde infini en durée en arrière. Voilà, allons-y. Alors ça plaisait pas à tous. Hein. Notamment les cathos, ça leur plaisait pas trop. Saint Thomas, lui, ça ne pose aucun problème. Mais à son époque, il y avait Saint Bonaventure, il n'était pas du tout d'accord. Saint Bonaventure, il pensait que c'était vraiment c'était très dangereux de poser un monde infini. Même par la raison que c'était absolument impossible. Et comment il fait? Eh bien, il raisonne comme... Pourtant, Saint Bonaventure, c'est pas n'importe qui, hein, c'est pas une nullité. Hein, on est des petits à côté. Hein. Et bien, Saint Bonaventure, il raisonne comme mon enfant de catéchisme. Comment il dit? Il dit, c'est pas possible que le monde soit perpétuel, Parce que il est créé ex nihilo. Donc avant le monde, eh bien, il n'y avait rien. Ou bien l'objet du néant quelque part. Ben voilà, mais il résonne comme mon gamin du catéchisme. Vous voyez, il met le néant, il fait du néant une position de départ. Il le met quelque part. Alors, en gros, tous les arguments tournent un peu autour de là. Que, vous voyez, souvent on dit, ben, la cause précède toujours l'effet. Donc si on pose un monde perpétuel, ben, où on va mettre Dieu, qui est la cause du monde? Vous voyez, on détruit Dieu, parce que le monde est perpétuel, donc il n'y a pas d'endroit. Ben, là aussi. Alors déjà, première chose, la cause précède toujours l'effet. Non, je ne suis pas d'accord. Chronologiquement, non. Parce qu'il y a des effets simultanés parfois avec leur cause, hein, premièrement. Donc ça, c'est le premier point. Et puis deuxièmement, vous voyez, on essaye de loger Dieu, qui est dans son unique instant de son éternité, on essaye de le mettre dans le temps, dans un temps qui précède, avant le monde. Ben, ça ne marche pas comme ça. L'éternité de Dieu, encore une fois, c'est d'un ordre transcendant, et c'est étranger à toute succession. Et donc on n'a pas à mettre Dieu avant le monde. Voilà. Et puis ceux qui vous disent, bah, la preuve que le monde ne peut pas être perpétuel, c'est que c'est le Big Bang. Bah ouais, il y a eu un commencement du monde. Bah, encore une fois, ils n'ont rien compris à la théorie que je vous ai dit du début. Les physiciens vous diront, bah, moi, en tant que physicien, je ne sais pas ce qu'il y avait avant le monde. Rien ne m'empêche de penser qu'il y avait quelque chose avant le Big Bang. Rien ne m'empêche. Voilà. Conclusion, eh bien, un commencement du monde, ou bien son non-commencement, ça ne se démontre pas. Ça, c'est la grande conclusion de saint Thomas d'Aquin, vous voyez. Alors, vous allez me dire, mais l'hypothèse d'un univers infini en arrière, c'est complètement effarant, vous voyez, un monde qui a toujours existé. C'est le mot de Pascal, vous voyez, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Bah, oui, il a raison, c'est vrai, c'est effarant, mais je vais vous dire, un commencement du monde, c'est encore beaucoup plus effarant, enfin, moi, ça me pose beaucoup plus de problèmes, hein. Parce que si je pose un commencement, si je dis que le monde a commencé, et si je remonte le temps, j'aboutis à quoi? Au vide? À rien? Vous voyez? Qu'est-ce qu'il y a? Mais il n'y a rien, mais le vide, c'est rien. C'est impensable. Le vide, c'est rien, donc j'aboutis à quoi? Il y a un bord, un extrême bord de l'être? Ben non, il n'y a pas d'extrême bord de l'être, voilà, il n'y a pas de temps qui borderait une extrême limite du temps qui borderait l'extrême bord de l'être. Vous voyez? J'arrive à quoi? Ben, j'arrive au néant, au vide, c'est impensable. Et donc, si vous réfléchissez à ça, c'est beaucoup plus effarant de penser à un commencement du monde, un commencement absolu du monde, que de penser à une perpétuité du monde. C'est beaucoup plus difficile. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est très difficile à penser, à concevoir. Et encore une fois, l'imagination déraille complètement, mais ce n'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire. Parce qu'un commencement, qu'est-ce que ça suppose? La notion de commencement, qu'est-ce que suppose? Eh bien, qu'il y a une suite. Mais elle ne suppose pas forcément qu'il y ait quelque chose avant. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait quelque chose après. Voilà. Il faut qu'il y ait une suite. Mais elle n'exige pas quelque chose d'antérieur. Voilà. Ça, c'est notre imagination, parce que nous, quand on voit des commencements, il y a toujours quelque chose avant. Pourquoi? Parce qu'on est dans le temps, on est né dans le temps, et ça, on ne peut pas s'en abstraire. Vous voyez, toutes les choses avec lesquelles on pense, et toute notre connaissance, c'est bien des sens. Et tout ça, c'est tissé du temps. C'est tissé du temps. On ne connaît pas de choses qui ne soient pas temporelles. Vous voyez, il y a Dieu, mais bon, c'est difficile à connaître. Hein. Voilà. Alors, prenez au moins ça, que d'un point de vue métaphysique, vous voyez, on ne peut pas démontrer un commencement du monde par la philosophie, par la seule raison, ni même sa perpétuité. Les deux choses sont valables parce qu'elles sont l'une et l'autre non contradictoires. Et donc il ne faut pas, et si on le croit, c'est uniquement par la foi. Et donc il ne faut pas, ça, je vous ai mis à la fin des citations de saint Thomas, vous irez à tête reposée, où saint Thomas dit il ne faut pas prêter à rire aux infidèles, en essayant de leur démontrer que le monde a commencé, parce qu'on n'y arrivera pas. Et donc ils vont croire que l'on croit, c'est uniquement de foi, ils vont croire que notre foi, elle repose sur ces arguments qui sont faux et qui sont inexacts. Vous voyez, genre l'argument de saint Bonaventure, bah avant il y avait le néant, donc il faut bien, le monde a dû commencer parce qu'il y avait le néant avant. Voilà, bah, ce genre de choses, on prête à rire aux infidèles si on veut absolument prouver des choses qui ne sont que de foi. Alors il faut nous demander ce qu'est la création. Ce qu'est la création? Parce que là, on a bien établi, je pense que vous commencez à le comprendre, on a bien établi l'indépendance de l'idée de création avec l'idée d'un commencement. La création, ça n'a rien à voir avec un commencement. Oui. Deux choses bien différentes. Alors essayons d'abstraire la notion de création justement de ses conditions temporelles, la façon dont elle se réalise temporellement, on s'en fiche, et regardons ce que c'est que la création vraiment. Et bien la création, la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est pas un mouvement, c'est pas un changement, c'est pas une mutation, ça n'a rien à voir avec ça. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est qu'un changement? Eh bien, un changement, c'est quelque chose et autre et autre. Il y a quelque chose qui est tel et qui est tel. Voilà. La bière était remplie et maintenant elle est presque vide. Eh bien, voilà, il y a quelque chose, mais il y avait quand même quelque chose, il y avait une bière avant. Et bien, la création, c'est pas du tout ça. La création, c'est la production de tout l'être. Voilà, et avant, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et le rien, ce n'est pas un terme, ce n'est pas un début. Donc il n'y a pas une succession, donc il n'y a pas un changement. La création, ça n'a rien à voir avec un changement. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas trouver quelque chose d'identique. Vous voyez ? Là, il y avait quelque chose d'identique. Ben, la bière, d'ailleurs, voilà, elle était ingurgitée, mais il reste le verre, d'ailleurs, il y a quelque chose, quoi. Et même dans les changements substantiels, il y a toujours quelque chose qui reste. En philosophie, on parle de matière première, vous voyez. Matière première, c'est pas, qui n'imagine pas, mais qui est un sujet. Le sujet du changement substantiel, c'est la matière première. Il y a toujours un sujet. Et bien dans la création, il n'y a pas de sujet. Voilà. Donc la création, c'est pas un changement, parce que le sujet, il est créé. Il est produit aussi par Dieu. Il n'y a pas de changement, donc la création n'est pas un changement. Et donc c'est pas un changement, c'est pas un mouvement, c'est pas une mutation, c'est pas tout ce que vous voulez. Donc le temps n'a rien à voir avec la création. Parce que le temps, qu'est-ce que c'est que le temps ? Eh bien, comme disait le vieil Aristote, le temps, c'est le nombre du mouvement selon l'avant et l'après. Le nombre du mouvement. Pour qu'il y ait un temps, il faut qu'il y ait un mouvement. Et puis un observateur qui observe ce mouvement. Voilà. Eh bien, s'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de temps. Donc le temps, là, la création n'étant pas un mouvement, le temps n'a rien à voir avec la création. Donc cessez de penser la création avec une idée de temps dedans. Je vous ai bien montré, ça n'a rien à voir. La création, elle porte sur la totalité de l'être. La totalité de l'être. C'est ça la création, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, vous voyez, c'est l'être qu'il faut interroger. Il y a des choses qui existent, qui sont, voilà, et qui sont néanmoins contingentes, qui n'ont pas en elles-mêmes leur raison d'être, qui ne sont pas par soi. On dit qu'elles ne sont pas par soi, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas par essence. Leur essence, ce qu'elles sont, n'implique pas pour elles d'exister. Ben, vous voyez, des choses changent, elles sont contingentes, etc. Et donc cet être-là, il doit avoir une cause, ils doivent être causés. Et donc, cette cause, eh bien, on l'a montré dans l'ordre des preuves de Dieu, c'est Dieu. Dieu, l'être absolu, dont toute l'essence à lui est d'exister. Dans toute l'essence est d'exister. Dieu, l'acte pur, l'être pur, l'ipsum esse existence, donc voilà, l'océan infini d'être, vous voyez. Tous les êtres contingents, eh bien, ils ne sont que par participation, on dit, c'est-à-dire qu'ils tiennent leur être de Dieu. Eh bien, qu'est-ce que la création ? C'est justement cette relation de dépendance entre Dieu et ces êtres-là, et ces êtres particuliers, limités, vous voyez. Ces êtres, ils ont une cause de leur devenir, on voit bien, vous voyez, une cause de leur devenir. La bière, ben, elle a diminué, il y a une cause, la cause c'est moi, qui le fait diminuer le niveau du verre à bière, voilà. Mais ça, c'est le devenir, moi je suis pas cause de l'être même de la bière. Et le houblon n'est pas cause de l'être même de la bière. Et ce qu'il y avait avant le houblon, etc. Non, c'est pas l'être, vous voyez, il faut interroger l'être des choses. Si on n'a pas une démarche métaphysique, si on n'interroge pas l'être même, eh bien, on ne peut pas comprendre la création, ça c'est sûr. Oui. Mais on n'est pas dans l'ordre du devenir. Je ne cherche pas la cause du devenir des choses. Voilà, si on est là, c'est qu'on avait un père ou une mère. Ben, le père et la mère, ils sont cause du devenir de l'enfant. Ils ne sont pas cause de l'être même de l'enfant. Voilà. Ça, c'est des points, vous réfléchissez à ça, et c'est vraiment, c'est là, vous voyez, la création, c'est l'application du principe de causalité. Une chose qui n'est pas par soi, qui n'a pas son être par elle-même, et eh bien nécessairement, elle l'a par un autre. Et cet autre, eh bien, c'est l'être de Dieu, c'est Dieu, c'est l'être premier, l'être pur. Alors vous me direz, mais comment concevoir cette relation entre cette causalité divine, justement, cette causalité divine entre Dieu et le monde, et les créatures ? Eh bien en gros, il y a deux systèmes possibles. Le premier, c'est l'émanation, l'émanatisme. Qu'est-ce que c'est que l'émanatisme ? Eh bien, en gros, on imagine qu'il y a Dieu, c'est la substance première, et puis elle se dégrade progressivement. Il y a Dieu, et puis il dégouline Dieu un peu. Il se dégrade, voilà, il y a une succession, un écoulement de son être. Voilà, Dieu lui-même s'écoule. Voilà. Il se diffuse comme ça, progressivement. Ça, c'est très, très néoplatonicien. Hein. Platon et les néoplatoniciens, surtout, tiennent vraiment cette théorie de l'émanation. Donc il y a l'un originel, l'être pur, qui se dégrade, si vous voulez. Il y a une continuité entre Dieu et le monde. Simplement, c'est une continuité qui n'est pas vraiment homogène, c'est une dégradation. Mais ça reste quelque chose du divin. Voilà. Le problème de cette théorie, outre qu'elle pense souvent la création, vous voyez, comme une dégradation, donc comme un changement finalement, comme un mouvement, comme une mutation, comme un mouvement dégradation, eh bien, le problème de cette théorie, c'est que forcément, on tombe dans le panthéisme si on soutient cette théorie. le monde, c'est Dieu. Ben voilà, beaucoup de gens pensent ça. Bon, alors, je vous refais pas la démonstration de la réfutation du panthéisme. C'était la fois dernière, j'étais là, donc on l'a fait. Je peux témoigner. Mais, en gros, ce qui va pas dans le panthéisme, eh bien, c'est que, justement, Dieu est unique, vous voyez. Dieu est unique, et puis la nature divine ne peut pas se multiplier dans des êtres limités. Et puis Dieu il est spirituel, il n'est pas corporel, il n'a pas de corps. Et Dieu il est simple, il n'est pas composé, c'est pas un tout Dieu. C'est pas un tout avec des parties. Ça on le montre très bien, parce qu'il est immuable, parce qu'il est acte pur, parce que toute son essence est d'exister. Bon, je ne fais pas la démonstration, ce serait un peu long, mais le syllogisme est assez facile, voilà. Et Dieu est simple, vous voyez, Dieu n'est pas un genre non plus. Il n'est pas dans un genre, Dieu. Dieu, voilà. Et donc, il n'y a pas d'espèce, il n'y a pas des sous-espèces de Dieu. Ça aussi, on le montre très facilement en philosophie. Et puis, Dieu est immuable, surtout. Il ne change pas. Dieu est immuable. Ben, le monde, il change. On voit ça. Donc, on ne peut pas soutenir que le monde est Dieu. C'est impossible. Bon, ça, c'est le panthéisme, c'est la fois précédente. Hein. Je ne vous refais pas le cours. Mais vous voyez, l'émanation, si on tient à l'émanatisme, eh bien, ça se heurte. C'est du panthéisme, et donc, c'est impossible. Donc, il faut poser une création. Ma création, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est la production donc de la totalité de l'être à partir de la cause première qui est Dieu. Voilà. Dieu crée, Dieu produit tout l'être à partir de rien. Mais quand je dis à partir, attention, ça ne veut pas dire que le rien c'est quelque chose avant, c'est un sujet, et puis que voilà, on a créé quelque chose à partir de ça, Dieu a modelé quelque chose. Ça, c'est une plaie. Justement, ça, ce serait l'émanatisme, vous voyez? C'est Platon, il y a des murs, et puis il modèle, en gros, il y a une matière première qui est plus ou moins divine, incréée, et puis il y a un démiurge qui façonne ça, voilà. Bon, c'est plus ou moins réussi. Mais c'est pas du tout ça, la création. Parce que la matière première aussi, elle est créée de Dieu, tout est créé de Dieu, tout l'être est créé de Dieu. Voilà. Et tout l'être vient de Dieu, qui est l'être absolu. Voilà. Et ce qui est intéressant à retenir, vous voyez, c'est que Dieu crée, mais Dieu crée en permanence. Dieu, à chaque instant de notre existence, Dieu nous crée. D'une certaine façon, en ce moment, Dieu nous crée. On dira plutôt qu'il nous conserve. Mais il nous conserve, mais cette conservation, eh bien, c'est exactement, c'est la continuité de l'action créatrice. C'est la même action, mais l'action créatrice continuée. Dieu continue, et voilà, ce qu'on apprend aux enfants du catéchisme. Vous savez, si Dieu oubliait un seul instant de penser à notre existence, on serait tous anéantis. Bah, voici une image, mais c'est vrai. Si Dieu, par impossible, il ne le fera jamais, mais par impossible, si Dieu cessait de nous soutenir dans l'existence, eh bien, la création entièrement serait anéantie. Donc la création, c'est en permanence. C'est pas un moment, justement, un moment de l'histoire du monde. C'est tout le temps, la création. Parce que c'est la production de tout l'être à partir de rien. Voilà. Et comment... Alors, si on essaye de préciser philosophiquement ce que c'est que la création, eh bien, je vous dirais que la création, c'est juste une relation. Mais ça vous dira absolument rien. Donc je passe, parce que je pense que ça ne vous éclairera pas beaucoup. Alors on pourrait développer... c'est une relation entre Dieu et la créature. Alors je pourrais développer, parce que le père Gérard Deslauriers a beaucoup aimé développer ça, il a plein de théories sur la relation, mais c'est très compliqué, j'avais noté des choses, mais je passe, parce qu'en plus le temps file. Mais voilà, la création, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas un mouvement, c'est une relation, simplement. Et alors, quel est, parce qu'il y a quand même un problème, le problème c'est la possibilité de la création. Comment la création est-elle possible? Vous voyez, Dieu il est. Dieu, c'est l'être pur, l'être absolu, l'océan infini d'être. Il est l'être même si, il est la plénitude de l'être. Alors comment penser qu'à côté de lui, il puisse avoir un être limité? C'est l'être infini. À côté de l'infini, ben, l'infini, il n'y a pas de place pour le limité, hein, il n'y a pas de place pour le fini. Quand vous pouvez faire coexister l'être infini avec le fini? Alors, ça, c'est un vrai problème. Est-ce que Dieu, vous voyez, il a projeté quelque chose de lui dans le monde? Ben, ça, c'est le panthéisme. Alors, il projette. On imagine que l'être infini projette quelque chose de sa substance. On a vu que ça n'allait pas. Alors quoi? Est-ce que Dieu s'est retiré de lui-même? Est-ce qu'il a creusé un trou à l'intérieur de lui-même pour nous loger, nous? Vous voyez, c'est, ben ça, c'est très actuel. Hein. Vous avez beaucoup de théologiens qui vont vous dire ça. C'est très grave. On va le voir. Vous savez, vous avez la théorie de la kénose. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Il y a un bouquin qui est paru récemment, qui est assez bon, par l'abbé Découvement. Tous les bouquins ne sont pas bons, mais celui-là est bon. Alors je vous le recommande, ça s'appelle Dieu souffre-t-il. Et justement, j'ai lu ce livre, et alors j'ai découvert qu'il y avait, moi, bien naïf dans mes études thomistes et tout ça, je sais, mais j'ai découvert un autre monde. J'ai découvert ce qu'il se faisait au Centre Sèvres et tout ça, avec des jésuites hyper intelligents, mais complètement fous, et qui inventent des trucs, mais hallucinants. Donc il y a la théorie de la kénose. La kénose, vous savez, bah, c'est le bon, ça, c'est très classique, hein, il s'est anéanti lui-même, bah, c'est le texte de l'épître qu'on a lu au dimanche des rameaux, il y a deux jours. C'est ipsum et inanivit, il s'est anéanti lui-même. Mais quand saint Paul dit ça, et bah, il le dit du Verbe incarné, il le dit de Jésus-Christ, il s'est anéanti lui-même sur la croix, oui, voilà, il s'est anéanti lui-même. Mais il y a des théologiens beaucoup plus subtils qui disent, mais non, pas du tout, vous pensez que c'est Jésus-Christ, mais non, mais c'est Dieu lui-même, c'est la Trinité qui s'est anéantie elle-même. Dieu, quand il crée, il s'anéantit lui-même. Vous voyez, il se détruit d'une certaine façon lui-même. Il se retire de sa création. Vous voyez, il se retire. Il retire de son être pour loger sa création. Et donc, on a un Dieu, si vous voulez, qui abdique. Voilà, qui très bizarre, quoi. Et Dieu n'est pas tout-puissant, évidemment. Vous croyez un Dieu tout-puissant, mais ça, c'est complètement dépassé. Hein, c'est des trucs, Dieu n'est pas du tout tout-puissant. Il est faible, etc. Il s'est anéanti de lui-même. Oui, d'ailleurs, enfin, je me demande comment ces gens peuvent même prier, parce que s'ils prient un Dieu qui n'est pas tout-puissant, bah, si Dieu n'est pas tout-puissant, il n'y a pas besoin d'espérer en lui, il n'y a pas à le prier. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais c'est assez hallucinant. Mais Dieu, il crée en se retirant, voilà. Et en introduisant, à l'intérieur de lui-même, il introduit la créature. Voilà. Et ben ça, c'est très actuel. Et c'est à la fois, alors l'origine de ça, c'est quand même, il faut le dire, il y a deux origines. Il y a une certaine gnose, vous voyez, qui est néo-platélicienne aussi. Et puis, il y a notre ami, et d'ailleurs, c'est lié à la gnose, notre ami Hegel. Hegel, parce que Hegel, vous savez, tout ce que je vous dis, le Dieu immuable et tout ça, mais Hegel, il rigole. Il rigole beaucoup, Hegel. Dieu immuable, pour Hegel, Dieu, c'est le devenir permanent. Dieu, il change tout le temps, hein, il a besoin de changer. Hein, Dieu, il n'est pas immuable du tout, il n'est pas du tout acte pur. Dieu, c'est pure puissance passive, hein, il se crée tout le temps. Et Dieu, donc, en créant, Dieu se crée lui-même, vous voyez. En créant sa création, ben, il se crée. Dieu se crée lui-même, et puis il change tout le temps, et puis il s'anéantit lui-même, il se détruit, et puis après il revit, et tout, résurrection, vendredi saint métaphysique, etc. Enfin, il en passe, c'est des meilleurs, c'est extraordinaire. Et c'est des choses. Voilà, bon, vous voyez, c'est quand même cette théorie est extrêmement pernicieuse. Vous avez des auteurs même profonds, hein, je pense, par exemple Simone Veil, bon, évidemment pas la personnalité politique préférée des Français, nouvellement académicienne, mais la philosophe, la grande philosophe qu'on veut aussi, nous avec un W, donc, par un V, et qui veut qu'on veut nous faire présenter, je ne sais plus, en fait, je crois, le centenaire de sa naissance ou le cinquantenaire de notre mort, ou je ne sais plus exactement, enfin, en fait, quelque chose d'elle en ce moment, cette année. Et on veut nous la présenter, on nous la présente souvent comme le grand compagnon de route du catholicisme. Le grand compagnon de route du catholicisme, vraiment compagnon de route assez éloigné, ou alors à des routes vraiment qui divergent quand même pas mal, hein, il faut le dire. Enfin, il y a des très belles choses, hein, chez elle, il ne faut pas, jeter tout à la poubelle. Mais c'est une pensée qui est extrêmement perverse. Et ça, il faut quand même le dire. Parce que j'ai noté, j'ai pris là, quelques citations de Simone Veil. Bah, elle, vraiment, Dieu abdique en créant. Dieu, il se renie lui-même. Il renonce à lui-même. Il renonce à être Dieu au profit de l'univers. Ça, c'est dans Simone Veil. On le présente comme la compagnon de route du catholicisme. Voilà. Et il remplit l'univers en se vidant lui-même. Dieu se vide. Voyez, il s'efface lui-même et il se répand. Voilà. Et l'être du créateur, il passe finalement dans l'être des créatures. Et la création, elle, à ce moment-là, elle dit la création, c'est une passion, exactement comme la passion du Christ pour elle. Dieu crée en se retirant. Et l'homme, et alors, conséquence de ça, vous voyez, parce que, vous voyez, on peut penser que c'est des trucs dans les nus et tout ça, la création, c'est de la métaphysique, ça n'a pas de grandes conséquences. Et ça a des conséquences morales extrêmement importantes. Parce que pour elle, après, eh bien, Dieu crée en se décréant, finalement, d'une certaine façon, en se retirant, en se détruisant lui-même, eh bien, l'homme doit à son tour se décréer, vous voyez. Il doit restituer au Créateur son être. Voilà, toute vie pour elle est de trop. Toute vie est de trop, parce qu'on prend de son être à Dieu. Et vous voyez, fondamentalement, chez elle, il y a une dissociation de l'être et du bien. Et c'est vraiment pas du tout comme ça. C'est né au plan platonicien, complètement. Hein. Il y a l'un bien, et puis l'être, mais l'être, c'est déjà dégradé. C'est déjà de l'imbien qui est dégradé, vous voyez. Et donc, je dois essayer de reproduire en moi l'abdication de Dieu. Dieu a abdiqué en créant, et je dois essayer de reproduire en moi cette abdication de Dieu. Concrètement, ça veut dire quoi? Ben, je meurs d'anorexie, c'est la fin. Voilà, à 40 ans. En se suicidant, pratiquement, parce que, voilà, il faut vraiment... notre péché, elle dit, notre péché, le péché, comment on le définit, le péché? C'est vouloir être. Le péché, c'est vouloir être. Donc voilà, bah, quand on arrive là, bah, effectivement, hein, il faut être clair. Donc vous voyez, c'est quand même une pensée assez très très dangereuse. Et ça, beaucoup de catholiques ne pensent pas. Ça c'est bien, Simone Veil dans les milieux cathos et tout, oui, c'est intéressant, n'est-ce pas? Bon, bah, voilà, l'existence pour elle, c'est un péché. Bah, c'est pas du tout la théorie de la création catholique. Mais vous voyez, il y a quand même un problème réel. Il y a quand même un problème réel, parce que si Dieu est, le monde n'est pas possible. Ah oui, Dieu est là, le monde est, Dieu est infini. À moins que le monde ne soit Dieu. En théisme, on a vu que c'était pas possible en théisme. Alors Dieu, c'est quoi? Alors comment expliquer le monde fini à côté de Dieu? Vous voyez? Comment expliquer cette... On a bien une autonomie quand même. Il y a des substances qui existent, qui sont réelles, qui existent en dehors de Dieu, qui sont créées, mais qui existent, qui ne sont pas Dieu. On sait bien. Si j'étais Dieu, je le saurais. Hegel pensait qu'il était Dieu. Mais bon, c'est oui, des manifestations de l'absolu. Une des manifestations de l'absolu. Voilà. Il y a des très belles phrases comme ça, très poétiques, mais qui tiennent... bon, ils sont, c'est vraiment tout autre chose. Ben voilà, mon être ne vient pas, il vient, et puis mon être, il vient pas de Dieu, c'est pas Dieu, mon être n'est pas divin, et en même temps, ça vient pas du vide, parce que le vide c'est rien. Alors d'où je viens? Comment c'est possible? Oui, il y a quand même un problème qui est très réel dans la création. Et bien la solution de tout ça, je vais vous dire en quelques mots, c'est l'analogie de l'être. L'analogie de l'être, c'est-à-dire, en toute rigueur de terme, vous voyez, de soi, je peux même pas dire Dieu est et je suis. Dieu est un être et je suis un être. Parce que quand je dis ça, être n'a pas le même sens, n'a pas du tout le même sens. Et quand je dis Dieu est un être et moi je suis un être, mais oui, mais moi je suis un être très par participation justement. Et c'est pas le même sens, vous voyez. Il n'y a aucun, Saint Thomas dit pratiquement ça, il n'y a aucun élément commun. Enfin, non, si je dis ça, c'est faux. Parce que justement, il y a quand même, c'est une analogie justement, c'est pas. Mais l'analogie, vous voyez, c'est plus proche de la différence, de l'équivocité, on dit, que de l'univocité, que de la ressemblance. Hein, si on est thomiste, si on est scotiste, si on est, bon, vous pouvez penser autre chose. Mais c'est quelque chose, c'est beaucoup plus proche de la différence. Il y a beaucoup plus de différence entre l'être de Dieu et mon être que de ressemblance. Et donc, à la limite, d'une certaine façon, je ne peux même pas dire qu'il y a un élément commun entre la définition de Dieu et la définition de l'homme. Même pas l'être. Vous voyez, il n'y a aucune base commune pour compter. Je ne peux même pas compter. Vous voyez, si je compte Dieu et moi, si je dis Dieu et moi, bah, c'est comme le gamin qui ajoute en CE1, qui ajoute des poireaux et des patates. Et puis qui dit, j'ai 5 poireaux et 5 patates et ça fait 10 patates. C'est faux. Voilà. Et bah, moi, il y a Dieu et moi, bah non, voilà. Donc voilà, ça c'est la clé. Bon, je vous dis la clé, bon, je ne peux pas développer, parce que... Mais c'est l'analogie de l'être. Vraiment, c'est très important. Et voyez, l'être créé, d'une certaine façon, il ne s'additionne pas. Il ne faut pas avoir une vision spatiale des choses, il ne s'additionne pas à l'être incréé. On ne s'additionne pas à Dieu, d'une certaine façon. Et à la fin de la création, on peut dire qu'il y a plus, on dit, il y a plus des temps particuliers, d'être particulier, si vous voulez, mais il n'y a pas plus d'être. Il n'y a pas plus d'être. Il n'y a pas plus d'être, parce que en intensité, vous voyez, d'un point de vue extensif, il y a plus d'étang. C'est multiplié. Mais d'un point de vue intensif, il n'y a pas plus d'être après la création. Parce que tout l'être vient de Dieu. Voilà. Alors maintenant qu'on a quand même pas mal dégrossi, il faut conclure. Il faut essayer de réconcilier, de voir quelles sont les contradictions et les convergences entre ces deux discours scientifiques, maintenant qu'on sait ce que c'est que la création, la production de tout l'être, la dépendance de tout l'être créé vis-à-vis de la cause première universelle de l'être qui est Dieu, eh bien, il faut essayer de voir en quoi ces deux discours convergent ou divergent. La première chose à faire, c'est à bien respecter les domaines concernés. Vous voyez, il faut respecter les spécificités des deux discours. Je vous ai dit, la Bible, ce n'est pas un discours scientifique, et que les scientifiques ne tiennent pas un discours de religieux. C'est important, voilà. Et la foi n'a strictement rien à gagner à mépriser les sciences, ça c'est sûr. À dire, la théorie du Big Bang, bah, c'est nul, c'est faux, bah, vous n'allez pas bien loin. Hein. Si vous êtes là, vous prêtez à rire, si vous voulez, aujourd'hui dans le monde scientifique. Hein. Et de même, les sciences n'ont rien, doivent savoir qu'elles sont limitées, parce que leur objet est limité. C'est la structure quantitative de l'univers, elles ne savent pas tout de l'univers. Donc ne tombons pas dans le fidéisme qui nous fait rejeter la science, et ne tombons pas non plus dans le scientisme. Le scientiste, vous savez, c'est de considérer que le vrai, le seul chose vraie, eh bien, c'est ce qui est vérifié par l'expérience. Et donc, il n'y a de vrai que ce dont parlent les mathématiques à Einstein, et puis voilà, et puis la physique moderne, qui est vérifiée expérimentalement. Ça c'est faux. Vous avez une revue qu'on reçoit au couvent, donc qui s'appelle La Recherche, c'est une revue de vulgarisation scientifique, plutôt pas mal, je crois, mais enfin, sur les faits objectifs que ça rapporte. Mais alors, dès qu'ils se mettent à parler, dès qu'ils se mettent à faire de la philosophie, c'est complètement nul. Hein, ils avaient fait un numéro il n'y a pas si longtemps sur les miracles. Et alors, le miracle, alors ça commençait très bien au début, c'était le miracle, oui, alors le miracle par nature, eh bien, il est en dehors du champ des lois naturelles, et donc du domaine des sciences. Alors, je me suis dit, ah tiens, c'est bien, mais alors c'est bon, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir dire par la suite? Ouais, je me suis détrompé rapidement, c'est qu'en fait, c'était en dehors du champ des sciences, ben, on aurait dû dire, bah, très bien, bon, ben, le scientifique, il n'en parle pas, puis voilà, on passe à autre chose. Mais non, il s'est dit, ben, il est du devoir des sciences de prouver que les miracles sont impossibles. Bah, si vous allez là, là déjà ça va être difficile hein, avec les sciences, parce que justement si ça échappe complètement à leur domaine, je vois pas comment elles vont faire pour prouver que c'est impossible. Vous voyez, il faut quand même respecter les domaines spécifiques des choses. Le miracle, eh bien, qu'est-ce que c'est? Le miracle, c'est un événement qui n'entre pas dans un ordre naturel constant. Donc qui par définition en général se répète pas. Ou quand ça se répète comme un lourd et tout ça, eh bien on sait pas trop que on sait pas trop à quelle fréquence et de la façon dont ça se répète. On n'est pas prévenu à l'avance, hein, ou c'est rare. Donc ça échappe par définition, comme ce n'est pas un ordre naturel constant, comme ce n'est pas vérifiable par l'expérience, et bien ça échappe aux sciences. Ça ne veut pas dire que ça échappe à toute vérité. Ben, c'est du domaine de l'historien. Quand à Fatima, le soleil il se met à tourner et que 50 000 personnes le voient tourner, et après il y a eu des astronomes pour vous dire, ah ben oui, on a fait les calculs et tout, le soleil n'a absolument pas, la Terre n'a absolument pas quitté l'orbite du soleil, etc. Donc c'est pas possible. Ben oui, il y a 50 000 personnes qui l'ont vu. Alors comment on rend compte de ça? Eh bien on rend compte, ça c'est le travail de l'historien. L'historien va dire, ben voilà, il y a des témoignages avec 50 000 personnes, dont beaucoup d'athées, dont des francs-maçons, etc., qui ont vu de leurs yeux, qui l'ont dit, qui ont vu le soleil tourner. Bon, eh bien voilà, c'est tout. Et on peut montrer que ces témoignages, eh bien, ils ne sont pas incohérents, qu'il y a une véracité, etc. Et donc que ce n'est pas forcément quelque chose de complètement absurde de penser qu'il y a eu des miracles, qu'il y a eu un miracle à Fatima. Eh bien voilà. Donc, mais ça échappe, c'est sûr, au domaine de l'astronomie. Ce n'est pas l'astronomie qui va nous montrer que le miracle de Fatima, le Soleil s'est arraché à l'orbite terrestre. Donc, vous voyez, il y a deux approches du réel qui sont complémentaires, mais qui ne sont pas opposées. Et c'est important de garder les deux, de ne pas être schizophrène, parce qu'il y a des cathos qui sont schizophrènes, c'est-à-dire, en gros, il y a la foi, bah oui, je crois que le monde a été créé en 6 jours, de 24 heures, et que les dinosaures n'ont jamais existé, mais en même temps, je fais des études, je poursuis des études à la fac de physique, où là, on m'apprend la théorie du Big Bang, et la paléontologie m'apprend qu'il y a eu des dinosaures et des bestioles comme ça qui ont existé il y a longtemps. Ben voilà, il faut pas séparer les deux ordres de connaissances. Il faut les distinguer pour les unir, comme toujours. Voilà, donc sérénité, évitons le scientisme et évitons le concordisme. Qu'est-ce que c'est que le concordisme? Eh bien, c'est, si vous voulez, en gros, une exégèse, un système d'exégèse qui voudrait que, eh bien, on interprète la Bible systématiquement de manière à la mettre en accord avec les sciences. Le problème, c'est qu'on est toujours en retard d'une théorie scientifique dans ces cas-là. Hein. En général, on défend encore Ptolémée quand c'est Galilée qui est là, et puis quand Galilée est dépassé, on est encore à défendre Newton, alors qu'on en est à Einstein, et c'est ça. Donc on est toujours en retard. Donc le concordisme, vous voyez, ça marche pas. Encore une fois, c'est l'histoire, je vous ai dit au début, on pourrait dire, vous voyez, la Bible a raison, puisque dans le cadre de la théorie du Big Bang, eh bien, la lumière existait avant les étoiles. Et donc, c'est bien vrai que la lumière existait avant les luminaires. Bah oui, bon, ça va pas très loin. Hein. Si vous faites toute votre apologétique là-dessus, déjà, il faudra expliquer pourquoi les plantes sont apparues avant les étoiles ou quelque chose comme ça. Ça va pas être facile. Hein. Donc, bon courage. Mais, vous voyez, il y a respect des ordres de connaissance. Ça, c'est très important. Bon, on en reparlera lors de la troisième séance où on verra plutôt la création de l'homme et donc l'évolution. Là, je reste, on parlera par exemple des théories d'intelligent design et tout ça, ce qu'il faut en penser. Appliquons ce qu'on vient de dire, voyez, au Big Bang et à la création. Alors, le Big Bang, eh bien, je vous l'ai dit, c'est une théorie qui est aujourd'hui universellement, enfin, très majoritairement acceptée par les scientifiques. Il y en a quelques-uns qui la refusent, c'est en général pour des raisons, en fait, religieuses, d'une certaine façon, ou athées, si vous voulez, mais donc religieuses. Il y en a un qui est célèbre, qui n'est pas n'importe qui s'appelle Fred Hoyle, je pense que ça se prononce comme ça, qui est un adversaire de la théorie du Big Bang, et qui dit, bah, moi je suis un adversaire de la théorie du Big Bang parce que je ne veux pas croire au miracle. Et donc je ne veux pas croire au miracle d'un monde qui a commencé. Voilà, et j'ai cité ce qu'il disait, il dit le Big Bang, en fait, c'est une théorie complètement fumeuse. Voilà, cette conception bien fumeuse du Big Bang tient en partie du fait que l'idée d'un commencement est, avec la Genèse, un thème central de la religion occidentale. On a envie de dire, ben, monsieur Hoyle, excusez-moi, mais on n'a rien à faire que ce soit un thème biblique ou que ce soit un thème de la religion occidentale. Faites votre travail de scientifique et prouvez-moi scientifiquement que le Big Bang, c'est faux. Parce qu'actuellement, il a justement, dans sa, il propose pas de théorie vraiment de rechange, il n'apporte pas vraiment de théorie qui expliquerait mieux les origines de l'univers que le Big Bang. Voilà. Donc on voit que c'est vraiment par athéisme qu'il le fait. Je vous fais attention parce qu'il y a M. Fred Hoyle, mais il y a M. Pidouze aussi. M. Pidouze, pour lequel j'ai une grande vénération, il est vénérable. Mais Pidouze avait eu ce discours en 1951 où il disait que c'était pratiquement la divine surprise, la théorie du Big Bang. C'était magnifique parce que, et maintenant, alors, un grand discours à la Pidouze, très très beau et tout, on arrive, la science moderne arrive à être parfaitement en accord et confirme ce que dit la Bible des origines de l'univers. On confirme, oui. Ce qu'on peut dire tout au plus, c'est que c'est pas en contradiction, c'est compatible. Maintenant, faire de l'apologétique là-dessus, dire beaucoup plus, on ne peut pas vraiment. Voyez. Donc, prenons garde vraiment de ne pas tomber dans le concordisme. Voyez. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, le père de cette théorie, c'est un prêtre, c'est l'abbé Georges Lemaître. Alors, certains disent, ben voilà, c'est le maître, donc il avait ses idées, il croyait à la Bible, le pauvre, etc. Donc, il a voulu absolument faire une théorie qui puisse expliquer, une théorie scientifique qui puisse expliquer la création de l'univers qu'il avait dans sa tête. Et donc certains disent que le maître aurait confondu, si vous voulez, l'instant, l'atome primordial, la singularité initiale de sa théorie, avec la création de l'univers. Mais merci, monsieur l'abbé Lemaître, bon, je pense qu'il avait fait des études de théologie, il savait très bien que la création, ça n'avait rien à voir avec le commencement, comme je vous l'ai dit. Et donc il ne cherchait pas, d'une part, premièrement, et deuxièmement, la théorie du Big Bang, je vais vous le dire, ça n'a rien à voir avec le commencement de l'univers, même, d'une certaine façon. Hein. Le maître était très conscient des confusions que pouvait apporter son statut de prêtre dans sa théorie. Mais justement, il a tenu à vraiment dire que sa conception, sa théorie du Big Bang était arreligieuse et n'avait rien à voir avec la métaphysique même, d'une certaine façon. Hein, il dit, voilà, pour autant que je puisse en juger, cette théorie reste en dehors du champ de la métaphysique ou de la religion. Elle laisse les matérialistes libres de dénier tout être transcendant. Et il ajoutait, j'ai trop de respect pour Dieu pour n'en faire qu'une hypothèse scientifique. Vous voyez, répondant à Laplace, vous savez, la formule de Laplace, à Napoléon qui l'interrogeait, mais où est Dieu dans votre système? C'est-à-dire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. Bon, bien, le maître lui répond, ben, Dieu n'est pas une hypothèse, même scientifique. Et c'est un autre ordre. Comment on atteint Dieu? Par la métaphysique, par la philosophie, et par la religion, par la foi. Mais pas par la théorie du Big Bang. Pourquoi? Parce que la théorie du Big Bang, eh bien, d'une part, ça n'a rien à voir avec la création. Je vous ai dit, ben là, vous êtes convaincus, vous comprenez bien que c'est la création, définition de la création, la production de tout l'être à partir de la première cause universelle de l'être qui est Dieu. Voilà. Eh bien, ça n'a rien à voir avec le Big Bang. Dieu ne nous dit rien, le Big Bang ne nous dit rien de la création. Et le Big Bang ne nous dit rien d'un commencement de l'univers, je vais même plus loin. Pourquoi? Eh bien, parce que, justement, en physique, eh bien, c'est vrai que, nihilo nihilisti, de rien, rien ne vient. Il y a toujours un phénomène qui explique un phénomène antécédent, qui explique un phénomène subséquent. Et donc, on est dans l'ordre des causes secondes. On remonte, il y a des causes particulières, et on remonte comme ça, le temps, effectivement. Mais on n'atteindra jamais, le physicien n'atteint pas la cause efficiente universelle de l'univers, la cause de Dieu, et il n'atteindra jamais, d'une part parce qu'il ne raisonne que sur la structure mathématique, vous voyez, il raisonne que sur la structure mathématique, et donc il laisse de tomber, de côté, les causes efficientes et finales, donc Dieu ça n'entre pas, donc c'est pas le sujet de son étude. Et donc, il ne dira rien d'un commencement militaire. Il y a toujours, si vous voulez, dans cette théorie, il y aura toujours des facteurs préexistants qui expliquent d'autres facteurs. Forcément. La physique ne saurait parler du monde qu'à partir du monde. Voilà, et de l'intérieur. On est déjà dans le monde quand on fait de la physique, on ne se place pas à l'extérieur. Et donc, les limites temporelles et spatiales sont bien des limites au-delà desquelles il n'y a pas de sens physique à aller. Il n'y a pas de sens physique à aller au-delà de l'univers. C'est ce qu'on dit dans la théorie. Au-delà de 15 milliards d'années-lumière, je ne sais rien. Je ne dis pas qu'il n'y a rien, je ne sais pas. C'est tout. Voilà. Mais il faut le reconnaître. Donc le physicien, en matière de commencement de l'univers ou pas, il est agnostique. Il vous dira, eh bien voilà, je reste agnostique sur la question de savoir si l'univers est perpétuel ou s'il a commencé dans le temps. Le philosophe, à lui, il revient de savoir ce qui est de savoir ce qui est possible. Est-ce qu'il est possible que le monde ait commencé, ou est-ce qu'il est possible également qu'il soit perpétuel? Et dans les deux cas, il répondra oui, c'est possible. Le monde peut avoir eu un commencement, le monde peut n'avoir eu aucun commencement. Et qui tranchera? Eh bien, c'est le théologien. Le théologien, avec la foi, avec la révélation, qui dira, oui, le monde a commencé. Le monde a commencé. Mais distinguez bien, dans toutes ces questions, encore une fois, distinguez bien la pensée et l'imagination. On a beaucoup de mal à concevoir un commencement absolu de l'univers, parce qu'on ne peut pas imaginer, voilà, le vide. On imagine le vide comme de l'air, quoi, quelque chose. Mais l'air, c'est déjà quelque chose. Donc on imagine toujours qu'il y a quelque chose avant. On ne peut pas imaginer un commencement sans rien avant. Mais ce n'est pas contradictoire, la philosophie nous le montre. Voilà. Et donc saint Thomas vous le dira, c'est pas contradictoire de penser un monde perpétuel ou un monde qui a commencé. La foi seule nous permet de trancher. Voilà. Je vous remercie. J'écoute vos questions si il y en a quelques-unes.
Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de l'effet qui était simultané.
Oui.
Est-ce que vous pouvez donner un exemple?
C'est bien ça. Quand je soulève, voilà, il y a le en même temps que ma main tient le verre, elle soulève. La cause, c'est la main. Et l'effet, bah, c'est le verre. Donc l'effet, c'est simultané. Voilà.
J'ai une question. Oui. Si la théorie du Big Bang marche, l'homme dans tout ça, il est comment? Enfin, c'est Darwin qui l'emporte.
Alors justement, ça on verra. Le darwinisme, c'est une autre théorie. Il y a la théorie du Big Bang. On verra la théorie de l'évolution. Ça, c'est la troisième séance. Donc, je répondrai à ça plus tard. Mais si il faut dissocier les deux. Si la théorie du Big Bang marche, enfin, disons que ça fonctionne, ouais, ça marche, ouais, c'est bien. Ça marche, je ne sais pas comment dire ça, mais je dis que ça marche. Quoi. Ça marche jusqu'à ce qu'il y en ait une autre qui ne marche pas, qui montre que ça ne marche pas. Quoi. Mais justement, on verra que c'est une autre théorie. On peut tout à fait soutenir la théorie du Big Bang et être anti-darwinien à fond des manettes. Enfin, je suis assez anti-darwinien, mais en même temps, par contre, c'est sûr qu'on est être pour le Big Bang et contre l'évolution, c'est difficile. Là, je vous accorde que. Mais on verra que l'évolution n'est pas forcément darwinienne. Hein, on verra ce que c'est que la troisième séance, donc au mois de juin, début juin, on sera rendez-vous pour ça.
Oui. Est-ce que c'est possible qu'il y ait des complémentations, quelque chose? C'est une création au début, et puis après, qu'il y aurait d'autres choses créées après.
C'est-à-dire si on tient que la création est vraiment, comme je l'ai dit, production de tout l'être, à partir de rien, enfin à partir dans le sens d'un ordre, évidemment, pas d'une matière première, eh bien Dieu, c'est pour ça que Dieu a tout créé d'un coup. Maintenant, est-ce que comme le pense, il a créé tout l'être d'un coup? Après, il peut y avoir, il y a des choses aussi, il y a quand même les âmes par exemple, vous voyez. Ben, les âmes humaines, c'est vrai, ça c'est une bonne question, une très bonne question, parce que les âmes humaines, eh ben, elles sont créées par Dieu, l'âme spirituelle. Les âmes spirituelles, elles sont créées par Dieu. Chaque fois que, voilà, ben, alors, il y a des théories, différentes théories d'animation de l'embryon, mais bon, en gros, ben, à partir d'un certain moment, alors est-ce que c'est immédiatement, après, je n'en fais pas dans ses dehors, moi je pense plutôt que c'est immédiatement, de toute façon, mais voilà, Dieu a fait l'âme et donc il crée l'âme spirituelle. Parce que là, l'âme spirituelle doit être créée par Dieu, parce qu'il n'y a aucun principe matériel qui puisse l'expliquer. L'esprit ne vient pas de la matière. Donc c'est un cas de création, si vous voulez, c'est plus une création continue, oui, une création continue d'une certaine façon, mais Dieu crée, oui, il crée les âmes humaines, ça c'est vrai. Maintenant, d'autres choses, Dieu, non, il a tout créé d'un coup, semble-t-il, et ça évolue. Alors, voilà. Oui.
Je vois bien le schéma avec donc, le monde comme une ligne et Dieu au-dessus, comme la croix dans les parties. Mais Jésus-Christ par rapport à ça, comment le schématiser du fait qu'il est Dieu
Eh bien, il entre
à la fois Dieu et dans le temps.
Eh bien, c'est l'union hypostatique. Et donc là, ça va être très compliqué si on en parle, mais oui, il est à la fois Dieu. Jésus-Christ est Dieu et homme. Donc il y a la personne divine de notre Seigneur. Là, elle est éternelle, hein, cette personne divine. Mais il assume une nature humaine, avec une âme créée et un corps créé, qui sont dans le temps. Donc, le verbe incarné, eh bien, incarné, c'est la partie nature humaine qui est dans le temps, qui est dans cette ligne, mais c'est vrai que d'une certaine façon, en assumant, eh bien, c'est la kénose, si vous voulez justement, ce qu'elle a de vrai dans la kénose, en assumant cette humanité, Dieu entre dans le temps. La personne divine du Verbe entre dans le temps, d'une certaine façon. Au moins, elle prend le temps, les 33 ans, sa vie terrestre. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'elle ne cesse pas d'être éternelle. Hein. Elle est co-éternelle au Père et au Saint-Esprit. Mais voilà, il y a eu. Bon, c'est la question de l'union hypostatique. Et voilà. Quelle autre question ?
Lorsque Dieu a créé le monde,
oui.
Est-ce qu'on peut penser qu'il avait le monde en soi, il l'a créé de façon a priori fixe ?
De toute façon, oui. Enfin, a priori fixe, mais à condition, attention, de ne pas placer dans le temps. C'est que Dieu a une idée du monde. Dieu a une idée de tous les possibles. Vous voyez, toutes les choses possibles qu'il aurait pu créer, il les a. Tous les êtres possibles, il les a en lui. Et en plus, il a des idées qu'il a créées, de toutes les choses qu'il a créées. Mais il ne faut pas penser, c'est co-éternel à Dieu, donc il ne faut surtout pas le penser comme nous, je conçois la voiture et puis je fabrique la voiture. Mais il y a quelque chose de ça.
En rien, c'est nouménal.
Alors là, il faudrait que je renvoie mon camp, là. Excusez-moi, mais je pense qu'effectivement, oui, enfin, c'est. Je peux pas vous répondre là, mais au moins pour moi, je le reconnais. Voilà. Mais je pense qu'effectivement vous avez raison. En tout cas, Kant ne conçoit pas du tout la création comme saint Thomas, comme la doctrine catholique. Hein, oui.
Je crois que c'est
allez-y, première.
La première, le docteur Dore a dit un jour qu'on pensait que la cellule était intelligente. C'est la première question.
La cellule.
La question.
Alors dans quel sens il. Dans quel sens il voulait le dire ? C'est-à-dire, s'il veut dire que il y a un certain sens, elle est intelligente dans le sens où elle a une nature. Moi, je veux bien, elle a une nature qui fait. Enfin, je ne vois pas dans quel sens il entend ça.
Par exemple ?
Oui, elle est intelligible, ça d'accord, mais en quoi elle est intelligente ?
Par exemple, mettons, si vous coupez un vaisseau,
oui.
Ben, vous pouvez savoir la question, mais les vaisseaux.
Oui, bon, on va se remettre de façon. Oui, mais ça, c'est qu'il y a une nature des choses. Donc, il y a une intelligibilité de la cellule. Mais je ne dirais pas qu'elle est intelligente, vous voyez. Ou alors, de façon très métaphorique, c'est une métaphore. C'est une pure métaphore.
La deuxième question,
oui.
C'est un peu une contradiction, si je peux me permettre.
Oui,
que, moi, je trouve que c'est contradictoire de dire que c'est faux de dire que le monde a toujours existé sous prétexte qu'il a été créé en même temps que le temps. Je répète. C'est faux de dire que le monde a toujours existé prétexte qu'il a été créé en même temps que le temps.
Si j'ai dit ça, alors c'est possible, mais ma langue a fourché, parce que c'est là le contraire que je veux dire. C'est-à-dire que le monde a toujours existé, c'est pas faux, au contraire, le monde a toujours existé, si on prend la proposition logiquement, vous voyez, dans le sens où il a existé tout le temps. Le monde a tout le temps existé, parce qu'il y a le temps naît avec le monde. Et donc il n'y a aucun moment du monde, aucun moment, aucun instant du monde, soit en dehors du temps. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, mais le temps et le monde existent en même temps, donc
oui.
Existent en même temps, très bien,
oui.
Mais ça ne prouve pas qu'avant il réagit, entre guillemets.
Ah non, ça ne prouve rien du tout, ça je suis totalement d'accord avec vous, ça ne prouve pas qu'il n'y a rien du tout avant. Tout à fait d'accord. Simplement ce que je veux dire, c'est que le temps, pour qu'il y ait un temps, il faut qu'il y ait une succession, il faut qu'il y ait un mouvement, il faut qu'il y ait quelque chose. C'est tout. Donc voilà. Voilà, je suis entièrement d'accord avec vous.
Sur un fait, j'ai vu la théorie de la 64 000 dollars de Berkeley, comme quoi il y avait 17 ou 18 dimensions.
Oui, alors Berkeley, c'est encore plus loin de Kant pour moi.
L'académie.
Berkeley.
Ah, Berkeley, d'accord. Comme des tuyaux d'arrosage.
Dans quel autre univers, moi, je suis pas contre.
Théorie des corps.
Oui, ah oui, d'accord. Bah,
théorie des corps.
Oui. Oui, bah.
C'est pour initier la relativité générale.
Oui, oui. Bah, ça.
Mais c'est possible.
Encore une fois, je ne parle qu'en honnête homme du début du 21e siècle. Donc, ces questions scientifiques, pourquoi pas. Moi, qu'il y ait d'autres univers, même en philosophe et en catholique, ça ne me pose aucun problème qu'il y ait d'autres univers. Hein. Si c'est ça le point, oui. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir, comme catholique, si dans ces autres univers, il y a des hommes qui pensent avec des intelligences. Et puis s'il y a une incarnation de Dieu, ça serait très intéressant. Mais bon, voilà, comme c'est des autres univers, de toute façon, on ne peut rien savoir. Ouais. Vous avez d'autres. Oui.
Est-ce que je peux prendre la défense de Simone Veil?
Oui, allez-y.
Parce que c'est un thème, vous me corrigerez
dans les autres, donc c'est un thème aussi de la façon de dire que la création retourne à une cause exemplaire dans les relations commissaires. Et
oui.
Est-ce qu'on ne peut pas dire que Spinoza finalement essaye de plaquer peut-être les deux filles de la façon de dire qu'elle a de la passion du fils?
Oui, mais alors justement, le problème, c'est qu'elle sans doute qu'elle essaye de faire ça, mais c'est faux, c'est ça le problème. Mais oui, elle a plein de bonnes intentions, mais le problème de Simone Weil, c'est qu'elle est fondamentalement néo-platonicienne, et donc, c'est ça. Mais, parce que les pères, je pense, les pères ne diront jamais, si vous voulez, que le vouloir être, c'est le péché, ou que Dieu crée en se retirant de sa création, je sais même pas, non, je pense. Ou alors, ils ont été très influencés par le néo-platonisme, vous voyez, mais Saint Augustin ne dira jamais quelque chose comme ça. Oui, c'est une mystique maladroite. Bon, il y a des bonnes choses, hein. Je veux pas la clouer au pilori. Bon, voilà, Gustave Thibon, bon, qui lui aussi était un grand vulgarisé un peu sa pensée. Donc, Thibon, il y a des aphorismes qui sont très très beaux. Mais c'est très dangereux, je pense, quand même. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Vous voyez, vraiment, il faut prendre ça avec vraiment des pincettes. Et il faut avoir. Alors, si vous avez une bonne formation thomiste, allez-y, lisez Simone Weil, peut-être que vous trouverez des perles, mais faites attention. C'est bon, plus d'autres questions? Donc je vais faire passer c'est pas le truc en tissu, c'est en papier, parce que j'ai oublié le truc en tissu, mais si je ramène rien, le chef va me fouetter. Sachez quand même de remplir le sac en papier, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Là, dans un mois, on se retrouve, alors là, parce qu'il y a le prolongement, c'est là, toujours d'étudier la création. On continuera. On continuera avec la question du mal, parce que là, j'ai pas abordé un point très important, qui est celui du mal.